ce style qu'on appelle la French Touch. Ça sera au Jokers le vendredi 7 novembre.
7 novembre.
Et c'est à partir de 23h.
Exactement.
C'est gratuit, venez nombreux.
Et ça va taper du pied.
Oh là là. Oh bah oui, forcément. Eh bien,
bonne soirée.
Allez, bonne soirée.
Excellente
ciao.
Soirée à vous.
Bye
dans
bye.
15 jours.
Allez, dans 15 jours.
Bisous.
You out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan. On an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah.
Il est 20h04 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission Génération Sport du 21 octobre 2025. Vous nous écoutez évidemment depuis le 101.5 FM ou bien sur le site www.radio-g.fr ou bien désormais depuis Twitch, depuis la semaine dernière, voilà sur la chaîne Twitch Génération Sport, ou bien vous pouvez aussi retrouver ce lien sur le site de Radio G. Voilà, on a deux belles webcams qui nous filment et qui nous suivront tout au long de l'année. Voilà, parenthèse faite pour ça, on va directement commencer par présenter ceux qui m'entoureront ce soir. À ma droite, Paulin, qui est en train de stresser tout comme moi. Salut Paulin.
Salut Faustin. Bah pour l'instant ça va parce que le Barça gagne 2-1. Merci Fermin, mais bon, le match n'est pas fini, même si maintenant on est en supériorité numérique.
Exactement.
Donc ça risque de le faire.
Voilà, un autre qui ne va pas stresser ce soir car son équipe ne joue pas en Ligue des Champions.
Allez, j'en étais sûr.
C'est Mathéo, salut Mathéo.
Et bonsoir Faustin, bonsoir à tous, ça va très bien de mon côté aussi. Je me remets tranquillement de mon week-end qui a été assez chargé. Donc là je suis très content parce que je vais parler un peu du programme en préambule. Mais on va parler pas mal de NBA, donc ça va me laisser le temps de reposer un petit peu.
Voilà. Avec nous ce soir aussi Robin qui fait sa deuxième émission, salut Robin.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Très heureux de retrouver la Ligue des Champions ce soir, le football européen. Donc avec des très belles affiches cette semaine, donc on va se régaler.
Voilà, Ligue des Champions dont tu nous parleras quand on parlera de foot tout simplement. Et enfin, c'est Paul qui est avec nous ce soir. Salut Paul.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Très heureux d'être ici pour cette émission. Et puis en même temps, on a la chance d'avoir une belle semaine de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe pour nos clubs français aussi.
Exactement, et on va commencer sans plus tarder par le sommaire. On parlera beaucoup de basket dans cette émission, dans un premier temps avec les actualités locales. On reviendra également sur le match du SCO. On parlera de Ligue 1, de Ligue des Champions comme on l'a dit. Après la pause musicale, on enchaînera sur de la NBA parce que ce soir, ça reprend enfin. Après, on parlera un peu du reste des actualités locales, la Coupe du Monde U20, tennis de table et un peu de cyclisme. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc, comme je le disais, avec les actualités locales et le basket. Et une défaite, malheureusement, pour l'EAB, 92-85 à Tours. Encore une fois, bien trop de points encaissés dans ce match, avec plus de 20 points par carton, c'est énorme. C'est le gros problème que les Angevins doivent pallier en ce début de saison. Pour l'instant, ils sont donc 7e avant d'affronter les Mets ce soir. Le match a déjà commencé. Les Mets qui n'ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison. Ça risque d'être un peu compliqué, c'est les Mets qu'on retrouvait en Betclic Elite il y a de cela 2 années, 3 années quand Victor Wembanyama y jouait, qui sont quand même descendus bien bas mais qui restent assez forts pour ce niveau de N1. L'UFA maintenant, les Angevines ont dans un premier temps perdu en Coupe d'Europe contre Bucarest 86-79, mais elles se sont magnifiquement rattrapées à domicile contre Basketland avec une victoire 75-73 grâce au game winner de Laura Mendes à la dernière seconde, offrant la victoire aux Angevines qui prennent ainsi la tête du classement de Boulanger Wonder League en devançant leur adversaire du soir qui n'avait pas encore perdu de match de la saison. Ce match était également l'occasion pour Leïla Lacan de faire son retour à Jambouin après avoir fait une belle saison aussi en WNBA. Pour Cholet, très bonne semaine pour les Choletais qui ont commencé mardi dernier en s'imposant 84-72 contre Bursaspor en Ligue des Champions. Ils ont ensuite enchaîné sur une victoire 89-78 face à Chalon à la Meilleraie. Et c'est Nathan De Souza qui remporte la ceinture ce soir-là avec ses 3 rebonds, 4 passes décisives et 11 points. On retiendra aussi le très beau 3 points d'Aaron Tounonsi qui était à environ 4 km de la ligne à 3 points. Ils prennent, tout comme l'UFAB, la tête du championnat. Leur prochain rendez-vous, c'est demain en Ligue des Champions contre Olon. La suite des actualités locales, avec toi Mathéo.
Oui, on continue avec le SCO handball et on va enlever tout suspense. C'est une nouvelle défaite qui s'est écrite vendredi soir face à Frontignan. Les Angevins qui avaient pourtant bien débuté la rencontre, menant à la 24e minute 13-10 chez les Héroltais, mais qui n'ont pas su garder cette avance pour finalement s'incliner 37-31. Des Angevins qui perdent une place, donc, puisque leur adversaire du soir leur passe devant. Le SCO est 13e. Samedi, c'est Saumur qui a su rebondir en National 2 de football avec cette rencontre face à Angoulême et cette victoire sur le score de 2-1. Malgré un pénalty loupé en début de rencontre, les Saumurois se sont bien décidés à aller chercher ces 3 points et ont su rebondir, inscrire les 2 buts de la partie en 8 minutes, puis faire le dos rond pour aller chercher la victoire. Saumur est désormais 12e de sa poule de N2. En National 3, la Bédusco s'est elle aussi imposée sur le score de 3-1 face à Châtellerault, équipe elle aussi mal classée, ce qui leur donne un petit peu d'air. Désormais 11e, les scoïstes restent au contact des dernières places puisque le bas de classement de cette poule B de N3 se tient en 3 points entre la 9e et la 14e place. Direction Cholet, désormais avec la victoire du SOC 3-1 sur Pornic en R2, une victoire que les Dogs, eux, n'ont pas su acquérir en D1 de hockey puisqu'ils ont été battus par Strasbourg 3-2 à domicile. Des Choletais qui n'avaient pas encore perdu une seule rencontre et qui connaissent ainsi leur premier revers de la saison. Dimanche, les féminines de l'entente Saumur Douai de handball ont dominé Montreuil-Juigné, équipe de Prénat, en 23-30 pour le compte de la Coupe de France régionale. Elle file donc au second tour après une rencontre maîtrisée. Dans le même temps, la Baumette est sous une pluie battante Nantes, hein, c'est le SCO Rugby qui a remporté son troisième succès consécutif face à Vendôme, 56-7 après deux défaites en ouverture. Le SCO se retrouve donc des couleurs du côté du volet. Les SCOistes féminines l'ont emporté en N2 3-1 face à La Hayan après avoir perdu les deux matchs précédents. Une défaite qui redonne de l'espoir, espoir que leurs homologues masculins n'ont pas vraiment eu face à Lorient avec cette défaite 3-1. La première de la saison pour eux, des Angevins qui ont d'abord été dans la bataille, mais la perte du troisième set très serré a assurément été une bascule vers ce revers. Au niveau du roller hockey, les Hawks d'Angers se sont eux aussi inclinés et continuent leur début de saison très compliqué avec cette défaite sur le score de 7-0 face à Grenoble après en avoir pris 6 il y a 2 semaines. Aucune victoire en 4 rencontres et une dernière place de Ligue Elite qui leur colle désormais à la peau. Comme d'habitude, on finit avec le SCO d'Angers en football cette fois-ci et ce nul plus qu'encourageant face à Monaco. Faustin, toi tu étais au stade, est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre et ce nul qui était quand même assez intéressant?
Ouais, c'est intéressant, on a quand même assez peur de ne pas avoir de but dans les jusqu'à l'ouverture du score monégasque, même si on a eu des belles occasions. Je pense à Prosper Peter qui loupe une tête de très peu en dessous Fati du côté monégasque aussi, mais on a vu une vraie bataille quand même. Le SCO a pas été spécialement dominé et c'est ça qui fait plaisir. La recrue a fait du bien aussi sur l'aile gauche. Essayer de faire des décalages, on voit que les automatismes sont pas encore tous là, mais il y a vraiment des choses positives à ce niveau-là. Il a touché le poteau aussi par la suite, mais en plus et puis le résultat final est vraiment encourageant. Sidiki Chérif qui retrouve le chemin défilé après une longue période de disette.
Ça c'est son premier but en professionnel, voilà. Sidiki Chérif, c'est ça qui est assez fou, c'est un jour de fête.
Voilà, exactement. Donc un beau but en plus qui fait extrêmement bien là, la 85e. Et ouais, c'était quand même un beau match. J'étais content de m'être déplacé pour aller voir ce match-là. Dommage, on n'a pas vu le retour de Paul Pogba, mais c'est comme ça.
On le verra d'ici quelques semaines, ça c'est sûr. Au niveau de l'ambiance, c'était comment? J'imagine que quand même sur le but de Sidiki Chérif, ça a dû fêter comme il se doit, ce but de fou, quoi.
J'étais juste au-dessus du COB, du coup, quand même, j'étais un peu déçu de voir que les Monégasques étaient assez présents. J'ai l'impression qu'il y avait plus de gens dans le COB du SCO, enfin dans le COB Monégasque à Raymond Kopa que dans la tribune du stade Louis II. C'était assez bizarre, mais ouais, quand même sur le but de Sidiki Chérif, ça a fait bien remuer tout le stade et toute la tribune, voilà, des bons tapements de pied dans les tribunes comme on connaît à Jean-Bouin.
Ouais, puis un but qui est quand même très fort aussi, hein. On n'a pas l'habitude quand même de voir des buts, alors sans critique pour le SCO aussi, mais parce qu'on est en Ligue 1 bien sûr, mais on n'a pas l'habitude de voir des buts aussi bien construits. Il est simple en apparence, mais quand même cette passe de Raoul Izoa, cette ouverture en magnifique, l'appel de Sidiki Chérif qui contrôle pas le ballon en plus et qui se l'emmène à un endroit où bah voilà, c'était le but pouvait passer que par là presque. Paul, je sais pas si t'as vu la rencontre quand même, mais ce but est magnifique et surtout mérité. On a vu que le SCO a tiré quand même 16 fois, 5 tirs de plus que Monaco, c'est quand même assez révélateur.
Bah c'est assez révélateur. En plus, bah du coup, comme tu l'as dit, Sidiki Chérif, c'est son premier but. Il s'est quand même créé beaucoup d'occasions avant, il avait beaucoup tenté et son entrée avait fait beaucoup de bien sur le côté parce que bah du coup il a pu apporter du 109. Et du coup, oui, comme tu l'as dit, enfin c'est une action qui est assez bien construite et du coup, je pense que c'est une suite de bon enchaînement pour le SCO parce que bah on a beau avoir des matchs où c'était compliqué, mais au niveau du jeu, on proposait du jeu, on essayait. Je me souviens du match contre Rennes où on n'était pas passé très très loin d'une victoire. Là encore une fois, bah on tient tête à Monaco et on aurait pu même aller chercher mieux, je pense. Et du coup, bah on faut espérer que ça continue comme ça sur une bonne dynamique et espérer bah contre des équipes à notre portée de faire des très bons résultats, aller gagner bah à domicile, à l'extérieur et continuer sur ça parce que bah faire un match nul contre Monaco, même si c'était le premier match de leur nouveau coach, c'est quand même intéressant de faire un match nul contre une équipe qui joue la LDC quand même demain soir.
Ouais, du jeu surtout construit principalement autour d'un homme aussi qui, quand il brille, fait briller le SCO. Quand il brille pas, comme juste avant la trêve face à Strasbourg, tout simplement ne fait pas briller le SCO, c'est assez simple. Mais du coup, c'est Arisbel Kebla quand même qui a fait une rencontre absolument magnifique. Robin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, je sais pas si t'as vu le match, mais Bel Kebla, en tout cas depuis ce début de saison, il est là et il fait les choses bien, il s'installe vraiment comme il s'était installé l'année dernière, mais ça a un côté rassurant quand même.
Ouais, j'ai vu le match et carrément. Je suis carrément d'accord avec toi. Je trouve que Belkebla, comme tu l'as dit, quand il est là, le SCO a un bon visage. Et puis quand il est pas là, le SCO a un visage différent. On l'a vu notamment dans la rencontre face à Strasbourg. C'est un leader sur le terrain, mais aussi en dehors. Il aide beaucoup dans le vestiaire. Donc forcément, je trouve qu'il aide vachement l'équipe. C'est un pilier sur lequel il faudra s'appuyer pour la suite de la saison, pour espérer accrocher un maintien qui va être difficile cette année.
Un autre pilier qui pourrait se dessiner aussi, c'est la recrue. Zbaï qui a quand même fait un match vachement pertinent. T'en as pensé quoi, toi?
Un gros match de Zbaï. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de percussions, beaucoup d'impact. Il a, on sait qu'il y a une difficulté au niveau de l'attaque cette année, du côté angevin. Et il a apporté vraiment un plus. J'ai trouvé beaucoup de, ouais, beaucoup de mouvements, beaucoup d'impact au niveau de l'attaque angevine. Donc, franchement, à suivre, mais très content de ce match de Zbaï.
Toi, t'en as pensé quoi, Paulin, aussi de cette rencontre, peut-être du match de Zbaï et peut-être de la rencontre de l'équipe en général, surtout offensivement. On a trouvé des éléments quand même plus intéressants que d'habitude. On sent que du jeu, il commence à avoir une vraie vision avec l'effectif qu'il a aussi.
Ouais, bah moi personnellement, j'ai pas pu voir le match travail oblige, mais par contre, j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passait, de regarder le résumé, même si bon, le résumé sur Ligue 1 était pas forcément le plus fourni que j'ai vu en termes de match, hein. Ils ont montré que les deux buts. Mais par contre, j'ai regardé les réactions d'après-match et j'ai notamment écouté ce que disait Louis Mouton. Et lui, il s'est prononcé sur le fait que, en fait, c'est un peu, on va dire, le jour et la nuit entre la performance qu'ils ont proposée contre Strasbourg et là, ce qu'ils font face à Monaco à domicile devant le public. Et en tout cas, lui, il avait l'air de dire qu'ils auraient pu repartir avec 3 points et limite déçu d'avoir pris que le match nul face au Monégasque. Et je pense que en fait, on en revient toujours à la même chose, mais quand le SCO fonctionne bien, et là, d'ailleurs, la recrue, moi, j'ai hâte de pouvoir voir un match complet de sa part et pouvoir me faire mon propre avis aussi sur lui, parce que par rapport à ce que vous me dites, ça a l'air d'être déjà positif sur un premier match, surtout un premier match où il est titularisé directement. Donc, ça peut aussi faire du bien d'avoir un joueur comme ça, talentueux, et comme tu dis, Robin, qui nous apporte de la percussion. Donc, à voir ce que ça donnera dans le futur, mais encore une fois, ça reste Monaco, donc même si c'était le premier match sous Pocognoli, c'est quand même un bon résultat de faire match nul quand t'es le SCO face à Monaco. Et il y en aura d'autres. Et maintenant, il va falloir se concentrer pour aller chercher les 3 points face à des équipes plus abordables, on va dire, quand on est le SCO d'Angers. Et je pense qu'il y a la place.
Et justement, la prochaine rencontre, c'est Lorient qui a 3 points du SCO, qui est 13e. Il y aura forcément des points à aller chercher là-bas. Je me tourne autour de la table, hein. Je vous regarde tous, prendra la parole qui voudra, mais concrètement, cette équipe de Lorient qui a quand même mis 3 buts, qui a été chercher ce nul aussi face à Brest dans un derby breton, qui a été vachement pertinent aussi dans le jeu. Donc vous en pensez quoi, cette rencontre face à Lorient? Ça peut s'inscrire comme un tournant de cette saison, honnêtement, pour le SCO?
Oui, je pense que c'est possible, surtout que Lorient, il tombe dans des largesses défensives où on sent que le SCO peut peut-être aussi se servir. Et offensivement, c'est peut-être un match justement où on peut s'attendre à un Angers-SCO qui va réussir à inscrire peut-être plusieurs buts. Et c'est vrai que ça nous ferait du bien aussi de pouvoir essayer de marquer et puis, si possible, de s'imposer. Mais Lorient, on a vu, ils ont eu des résultats assez compliqués. Et en même temps, des fois, il y a des matchs, notamment celui contre Rennes, où par rapport à des faits de jeu, les deux rouges en 10 minutes, ils se sont imposés 4-0. J'ai envie de dire, là, le scénario du match fait que la victoire était logique pour Lorient. Et c'est pareil contre les Monégasques. Il gagne 3-1 contre Monaco avec un doublé de Pagis. Il y avait eu rouge pour Monaco en début de rencontre. Donc, sur des faits de jeu comme ça, Lorient a réussi à s'imposer. Mais si on part sur le principe de ce que j'ai pu voir de Lorient, je pense que le SCO peut clairement faire un résultat. Et justement, là, ça peut nous donner aussi des vraies idées parce que on voit qu'on arrive à accrocher des équipes comme Monaco, contre Rennes. Et là, peut-être que Lorient, ça peut être une victoire, comme tu dis, un peu fédératrice et importante dans ce début de saison.
Et en tout cas, attention à pas se faire décrocher, parce qu'on l'a vu, hein, quand même. On va aller voir en tout cas les résultats de cette 8e journée de Ligue 1. Au niveau des équipes mal classées, ont quand même été assez intéressantes aussi. 8e journée de Ligue 1, donc qui a commencé sur les chapeaux de roue avec ce nul spectaculaire 3-3 entre le PSG et Strasbourg, un match qui laissait une ouverture pour la première place à Lyon et Marseille. Samedi après-midi, l'OL a loupé le coche en perdant malgré une nette domination contre Nice 3-2. Le SCO et Monaco ont donc fait match nul un partout. Marseille a atomisé le Havre 6-2 en fin de journée. Le lendemain, c'est le RC Lens qui s'est imposé à Bollard contre le Paris FC. Rennes continue son début de saison en demi-teinte en concédant ce nul à domicile de partout contre Auxerre. Toulouse a fait le show face à Metz avec notamment ce but magnifique de Yang Bo et ce tacle assassin de Sadibou Sané comme fait marquant. Dans le même temps, Lorient et Brest nous ont offert un derby breton ultra prolifique. Score final 3 partout. En clôture, le LOSC l'a tranquillement emporté sur Nantes 2-0. Une journée à 35 buts qui voit l'OM être le nouveau leader devant le PSG, Strasbourg, Lens et Lyon qui complètent ce top 5. Dans le bas du classement, Metz fait figure de bon dernier, toujours avec ses 6 défaites et ses 2 points, 4 de moins que le SCO, le Havre ou encore Nantes. En parlant de foot français, on va peut-être se diriger, pourquoi pas, vers la Coupe d'Europe, puisqu'on a des clubs français, notamment le PSG qui joue ce soir, Paul.
C'est Robin
qui le fait. Autant pour moi.
Et oui, parce que qui dit fin de la trêve internationale dit retour des championnats et de la Ligue des Champions cette semaine avec le début de la troisième journée de la Ligue des Champions dès ce soir. Et ça a débuté déjà dès 18h45 avec deux matchs en cours. Tout d'abord Barcelone-Olympiakos avec le FC Barcelone qui mène désormais 4 buts à 1. 5 buts à 1. 5 en direct.
Et triplé de Fermín. Voilà.
Et triplé de Fermín López qui a inscrit les deux premiers buts en première mi-temps. El Kabi ensuite réduit la marque pour l'Olympiakos. Et donc Lamine Yamal, Marcus Rashford puis Fermín López désormais ont marqué en cette seconde période. Et ensuite également à 18h45 il y avait un duel de petits poussets entre Kairat Almaty et le Paphos FC. Toujours 0-0 actuellement. Ensuite, rendez-vous ce soir à 21h pour le retour à la compétition du champion en titre, le Paris Saint-Germain, avec un déplacement en Allemagne sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Après leurs deux belles victoires lors des deux premières journées face à l'Atalanta et au FC Barcelone, les Parisiens ont pour objectif de consolider leur place dans le top 8 avec le retour de deux joueurs et pas des moindres dans le groupe, le ballon d'or Ousmane Dembélé et le capitaine Marquinhos. De nombreux autres matchs ont lieu ce soir, avec notamment un très intéressant Arsenal-Atlético Madrid, mais aussi avec Dortmund qui se déplace chez les Danois de Copenhague, Newcastle qui reçoit Benfica, Naples qui affronte le PSV, le FIS champion d'Europe, l'Inter Milan qui se déplace en Belgique pour affronter l'Union Saint-Gilloise, et enfin le Manchester City d'Erling Haaland qui ira défier Villarreal en Espagne dans le stade symbolique de l'Estadio de la Ceramica. Pour les deux autres clubs français, rendez-vous demain soir. Monaco et Marseille devront confirmer leur bon résultat de la journée précédente, soldé par un match nul 2-2 pour Monaco face à Manchester City et une victoire écrasante 4-0 de l'Olympique de Marseille face à l'Ajax. Pour les Marseillais en grande forme depuis quelques semaines, c'est un déplacement au Portugal qui les attend face au Sporting. Et de son côté, Monaco accueillera le club anglais de Tottenham pour aller décrocher leur première victoire dans cette compétition, avec le premier match donc en Ligue des Champions de Sébastien Pocognoli. Au programme, également ce mercredi soir, on devrait se régaler avec de très belles affiches telles que le Real Madrid-Juventus ou encore Francfort-Liverpool et même Chelsea, un petit Chelsea-Ajax à Amsterdam qui pourrait être très intéressant. Tous ces matchs également à suivre à 21h demain. Enfin, en ce qui concerne nos autres clubs français en lice dans les autres Coupes d'Europe, les rencontres se dérouleront jeudi. En Ligue Europa, Lyon, vainqueur de ses deux premiers matchs, recevra les Suisses de FC Bâle à 18h45. Et Lille, qui compte également à 6 points après deux journées, accueillera à 21h le PAOK Salonique. De son côté, le GC Nice, en grande difficulté dans ce début de campagne, tentera de gagner ses premiers points avec un déplacement à 21h en Espagne sur la pelouse du Celta Vigo. Pour terminer, la Conference League avec Strasbourg. Après une belle performance ce week-end face au PSG, les Alsaciens, victorieux lors de leur première journée face au Slovan Bratislava sur le score de 2-1, tenteront ce jeudi d'intégrer le top 8 face à l'équipe polonaise du Jagiellonia Białystok. Coup d'envoi 18h45 pour les Strasbourgeois. Messieurs, y a-t-il une équipe française ou autre, ou même un joueur autour duquel vous attendez quelque chose de spécifique cette semaine, dans cette semaine européenne?
Bah, à Strasbourg, j'ai envie de dire Panicelli, parce que
évidemment,
face à Paris, là, je crois que j'ai découvert un joueur, et d'ailleurs tout le monde, assez choquant, assez bluffant dans sa qualité dans les duels aériens. Enfin, déjà rien que son sens du jeu, et j'ai envie de dire sa dévotion pour son équipe, ses retours défensifs constants, et puis vraiment sa faculté à être excellent dans les duels aériens. Il met un doublé contre le PSG, s'il en met trois, c'est la même chose, c'est le Kerat à la fin. C'est compliqué, mais enfin, je veux dire, le match est parfait. Donc ouais, c'est intéressant de voir. Là, j'ai envie de m'intéresser un peu plus justement à ce buteur-là, parce que vraiment, il m'a impressionné. Puis après, pour les autres clubs français, on espère qu'il y aura des résultats.
Bah moi honnêtement forcément ce qui va m'intéresser c'est l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Je vais pas en parler en long et en large non plus, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est le retour en face de Lyon de Xherdan Shaqiri, quand même, qui a été assez mauvais chez nous, assez décevant, et qui là du coup fait pour l'instant un retour à Bâle assez impressionnant. Même là en début de saison, il a 5 buts, 5 passes D en 9 matchs de Super League, donc non, ça va être assez intéressant. Et sinon pareil, après bon, je vais quitter l'OL après, hein, je suis sûr, mais le Villarreal City forcément, Mikotadze contre Cherki, ouais. Qui risque de pas être titulaire, mais qui a toujours les éloges de son coach Pep Guardiola, donc forcément ça va être très sympa. Sinon le vrai test, en tout cas pour moi, c'est pour Monaco contre Tottenham. Tottenham qui est quand même une grosse équipe, une équipe sur laquelle moi j'avais envie de miser, en tout cas sur ce début de saison du côté des équipes anglaises. Donc ce match-là, il est pour moi à ne pas manquer pour les Monégasques, et que ce soit un nul ou une victoire, ce serait une énorme surprise et quelque chose de très très positif.
Ouais. Ouais, de mon côté, moi, j'ai plus regardé la Ligue des Champions, et un match qui m'intéresse, c'est Francfort-Liverpool. Ouais. On sait que Liverpool est pas trop en forme en ce moment, c'est compliqué, donc ils jouent un peu leur survie à chaque match, et il faudra voir si ça paye en Ligue des Champions. Sinon, pour ce soir, j'irai plus sur un Arsenal-Atlético de Madrid. La dernière fois, j'ai regardé Atlético-Francfort, je savais pas louper, c'était un super match. Là, ça parle de Haaland Ball, mais
c'est exactement ça que je pensais.
Mais l'Atlético en ce moment, ça joue pas trop Haaland Ball, je trouve. Donc, et puis comme ça, je ferai un peu de scouting pour Julian Alvarez. Ça fera plaisir aussi.
Ah oui, si on pouvait l'avoir au Barça, ça régalerait.
Seulement 200 millions.
Ouais. Mais bon, on est capable de marquer des buts. Là, il y a 6-1, Rashford doublé, Fermin triplé, il y a mal penalty. Voilà, tout va bien. C'est magnifique.
Moi, de mon côté, je pense que Nice a quand même un tournant, parce que après 3 matchs, ça serait important de granger des points, parce que bah déjà tu prends 0 points sur les 2 premiers matchs, sachant qu'ils ont un calendrier qui est pas facile, compliqué. Qui est très compliqué. Donc je pense à un match contre le Celta Vigo, qui est de mon point de vue une équipe qui est à leur portée, et même bah faut continuer sur la bonne lancée qu'ils ont eue après la victoire contre Lyon. Donc faut continuer comme ça, je pense.
Bref. Fait pas plaisir celle-ci.
Ah, tu prends pas le double perdu ce soir.
Non, mais si j'ai un pari, en tout cas pour nos auditeurs, sur le Nice Celta Vigo, le match nul un partout, je pense que la cote elle est.
Ah ouais, les sept derniers matchs, ils ont fait un partout, je crois.
Ouais, c'est à peu près ça la stat, je crois.
Oui, ils ont fait énormément de un partout de Celta Vigo, c'est sûr. Bah après Nice, comme tu l'as dit Paul, on sent que là ça peut engranger de la confiance. On a bien aimé le discours de Franquès dans le vestiaire à la fin du match. Là, c'est une image qui a pas mal tourné. Donc de toute façon, on sait que c'est une équipe qui peut pas mal marcher à la confiance. En tout cas, ce qu'ils montraient sur le début de saison, moi j'étais vraiment pas convaincu, pas fan du tout, même contre l'AS Rome. Mais bon, j'ai pas du tout vu le match face à Lyon, donc je peux pas en parler. Mais en tout cas, s'ils peuvent continuer sur leur lancée, comme tu l'as dit, ça leur fera le plus grand bien.
Il est large le bus.
Tu voudras pas en parler, Mathéo?
Non, je peux en parler, mais c'est vrai que c'est assez frustrant comme rencontre.
Ça peut se comprendre. Voilà pour le football français et européen. On va passer à la pause musicale et après on se retrouvera pour parler pas mal de basket. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la NBA qui reprend ce soir, et on va continuer. Propagande Yanis un jour, Propagande Yanis toujours. Cette fois en feat avec Gino Eve, son nouvel album D&D, et le son s'appelle Oublié.
Que tru à chapeauter, je te laisse bander sur le rappeur d'à côté. J'suis allé me presse pour un beauté, car y'en a qui tueraient pour sa beauté. Qui dit Y me dit danger, de toute façon je sais que j'ai les bonnes cartes. Là j'suis énervé, j'vais manger les MC restés sur de bonnes gardes. Le chiffre je fais buller, j'vois pas grand chose derrière les lunettes. J'ai encore 2-3 foules à réguler, je pense aux occasions que j'aurais pu mettre. J'suis sur la base, le son il est hard, sa mère. Le bolide il trace sa mère. Il faut que j'bouge, j'vais récup 4 salaires pendant que l'autre jacque sa mère. Nouvelle paire, ça fait criser les vieux. Dans une benne, ça fait criser les pneus. Le ballon je le dépose, pied droit ou pied gauche, gros j'ai maîtrisé les deux. Je suis sur mon karaté, moi raté c'est impossible. J'en passe si je dois pas rapper, paradis c'est pas mon style. Pour la mala, pour les billets. Tu t'es retrouvé dans des JS. Je dépense ta pièce dans une pièce. Même si y'a pas d'appiette, je me dois de rester loin du piège. Pour les billets, moi je fais ça bien. Pour les billets.
Pourquoi je t'ai oublié? J'entrais seulement si un billet. Ma casse n'est jamais maquillée. Quand elle veut qu'on parte, je lui achète son billet. On fait en vrai pas des jeux vidéo. Je sais qu'entre nous y'a des bras et des hauts. Tu veux pas de moi en réalité? Tu manies mon cœur et tu manies mes mains. Avec mes bros dans la hotbox. La vie ma chaîne elle est nasty. Je veux les faire avec sa bestie. Bébé tu sais je suis un mad dog. Passe tout l'été sur le jet ski. Avant qu'on le fasse sur le back. J'ai mis 3 grammes dans le break. J'étais pensé à l'étranger. J't'ai jamais demandé de changer, changer. Dis-moi tout ce que tu veux sans gêne, sans gêne. Avec moi tu ne sens pas le danger, danger.
pas d'un billet, je veux toi triste et loin du piège. Pour les billets, moi je fais ça bien. Pour les billets, on fait ça bien. J'suis pas outillé, mais j'suis pas si jamais ça vient. T'as trop roupillé, Hugo, pour ça tout le monde t'a oublié. Pour les billets, moi j'fais ça bien. Pour les billets, on fait ça bien. J'suis pas outillé, mais j'suis pas si jamais ça vient. T'as trop roupillé, Hugo, pour ça tout le monde t'a oublié.
Voilà, c'était Oublié de Yanis en feat avec Ginouvé. Promis, la semaine prochaine, je mettrai autre chose que du Yanis. Mais là, c'est trop. Faut que je diffuse un peu cet artiste qui soit bien plus écouté. Je vous rappelle que vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien le site www.radio-g. Ou bien depuis Twitch, vous pouvez évidemment participer sur le chat aussi. On attend avec impatience vos messages pour l'NBA. Je vais vous donner directement les thèmes qu'on va aborder. Si vous voulez nous donner vos hot takes en ce début de saison, on va parler des équipes qui visent le titre de champion, tout simplement. Les équipes outsiders, les candidats MVP, les joueurs qui nous intéressent. Et on fera une dernière partie sur les Frenchies. Et on va commencer sans plus tarder. Paulin, c'est ça, surtout se passer entre nous deux, grands fans de NBA. En plus, t'as mis ton beau pull d'Enix. Je pense que tu nous as mis dans les favoris au titre.
Oh oui, ça c'est bien me connaître, ça. Très, très, très objectif. Non, mais oui, comme tu le dis, on peut passer en revue nos favoris pour le titre. Et c'est vrai qu'alors moi j'en ai choisi 5, mais je vais en développer davantage 3. Le 5e que je place, c'est les Rockets de Houston, parce que en fait l'arrivée d'un scoreur ultime tel que Kevin Durant dans ton équipe, forcément ça joue en ta faveur pour être une équipe compétitive, tout simplement. Et on rappelle que au poste de pivot, ça reste Alperen Şengün qui, vraiment, pour ceux qui suivent pas forcément l'NBA, avec à l'Eurobasket, ils ont vu le monstre que c'était. Il a été absolument énorme sur tout l'Eurobasket. Et quand on a des gars comme Amen Thompson, qui est clairement pour moi un candidat au MIP cette saison, et là rien que ce qu'ils ont lancé pour le premier match, là ils vont affronter le Thunder, et on regarde leur 5 de départ, 2m9 de moyenne. C'est Kevin Durant qui va jouer poste 2, donc arrière, enfin c'est assez incroyable. Donc moi les Rockets, je les mets 5e, franchement ils peuvent être plus haut s'il n'y a pas la blessure de Fred Van Vliet sur ce avant du coup de commencer la saison, parce qu'il est out pour le reste de la saison. Mais vraiment, je pense que c'est une équipe assez intéressante. Je sais pas toi si t'es d'accord avec moi pour les Rockets.
Moi je les ai mis en outsider.
Ok, oui, c'est compréhensible, c'est un peu, tu vois, ouais, moi je les mets cinquième.
Et... moi j'ai fait mon top 3 pareil pour les champions, j'ai fait top 3 outsider, je les ai mis dans mon top outsider. Pareil, je suis d'accord, l'apport de Kevin Durant, ça va être fou. En plus, ce qui m'a marqué, c'est on a vu qu'il a accepté de pas prendre le contrat max,
ouais.
Qu'il a accepté de baisser son salaire, donc ça prouve qu'il est prêt à faire des efforts pour le collectif, ce qui était peut-être un peu moins présent les autres années, notamment du côté des Suns où il jouait un peu pour sa gueule, on va pas se le cacher, mais là ouais, ça peut être quelque chose de très grand. On a clairement donné les clés à Alperen Şengün pour cette franchise qui nous a fait quelque chose de grand à l'Euro, comme tu l'as dit. Et ouais, voir une équipe où on a une tendance au small ball quand même dans la NBA qui apparaît de plus en plus, pour une équipe qui va jouer grand comme ça, ça peut être aussi très intéressant. Et Amen Thompson qui a aussi dit vouloir être deep boy cette année. Wemby lui fait coucou, mais
ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Wemby, franchement, pour le titre de deep boy, j'ai encore vu personne m'annoncer un autre deep boy que Wemby. Alors pourtant, il y a des candidats, hein. Il peut y avoir du Jaren Jackson Jr. côté Memphis, et Evan Mobley qui fait le doublé côté Cavs, mais c'est vrai que Wemby, à un moment donné, si on parle déjà rien que statistiquement, je pense qu'il peut tourner à 4 comptes par match.
On en reparlera, je pense, mais ouais, plus tard dans les autres rubriques. Mais ouais, Wemby semble intouchable sur ce trophée-là. Je vais te laisser donner ton top 3 maintenant.
Eh ben complètement. Donc on va dire que ceux que je mets pas, c'est les Cavs, parce que mes troisièmes, c'est les Knicks. Évidemment, je mets les Knicks troisième parce que pour moi, l'Est est trop faible cette année avec l'absence des Celtics pour cause de blessures de Tatum. Pareil pour les Pacers, qui sont un peu la bête noire des Knicks et qui en plus sont finalistes de l'édition précédente, mais qui perdent aussi Tyrese Haliburton sur une blessure la même que Tatum, sur une rupture du tendon d'Achille. Je mets les Knicks parce que nouveau coach, donc on aura plus Thibodeau qui fait jouer ses joueurs 48 minutes minutes par match, on va peut-être avoir un vrai schéma de jeu offensif intéressant. Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Michael Bridges et évidemment le Gershon Yabusele qui va être parfait en sortie de banc. Donc voilà, troisième place, je mets Menix. En deuxième, évidemment, les Denver Nuggets, parce que Nikola Jokic, parce que le meilleur joueur de la planète, et parce que ils ont fait un mercato XXL. Ils ont fait arriver un très très bon role-player en la personne de Cam Johnson, qui est un très bon tireur à trois points, très bon défenseur, un pivot backup. On savait qu'il y avait du mal quand Jokic était plus sur le terrain, et là, on recrute Jonas Valančiūnas, qui a aussi été en vue avec la Lituanie pendant l'Euro, un pivot d'expérience qui est capable de rendre des services quand il est sur le terrain. Donc les Nuggets, je pense que ça va vraiment se jouer et ça va affronter contre une autre équipe. Et forcément, mon top 1, bah, c'est OKC, le Thunder pour le back-to-back.
Pas étonnant, ouais.
Ils ont rien changé. Ils sont dans la continuité de la saison dernière. Donc, pour moi, à partir du moment où tu prends les mêmes et tu recommences et que t'es allé chercher cette bague-là, pour moi, ils sont favoris. Alors, on peut avoir une adaptation, du coup, d'autres équipes. D'ailleurs, comme les Nuggets, hein, qui ont amélioré leur effectif. Mais je pense que Shai va encore être incroyable. Et,
il y a de fortes chances, ouais.
Et qu'on peut les voir aller chercher ce titre.
Il y a des chances qu'on le trouve dans une autre brique aussi, Shai, j'imagine. Mais oui. Ouais, mon causage est à peu près le même top 3. J'ai hésité à ne pas mettre d'équipe à l'Est du tout. Parce que, à mon sens, une équipe de l'Est, j'ai mis les Cavs quand même, en troisième position. Mais ça me semble impossible d'aller chercher une bague du côté de l'Est. Après, je disais ça l'année dernière aussi, et finalement, les Pacers nous ont un peu fait mentir en allant chercher un Game 7 qui aurait pu être totalement gagné sans la blessure de Tyrese Haliburton. Mais ouais, après, pour les mêmes raisons que toi, pareil, là, du côté de Denver, ça s'est vachement renforcé. J'ai bien aimé, vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait, même en profondeur de banc avec Tim Hardaway Jr. et Bruce Brown
qui
revient, qui avait été plutôt bon il y a cela 2 ans. Ou 3 ans, j'ai plus en tête. Mais ouais, pareil, le départ de Michael Porter Jr., qui va pas faire tant de mal que ça, à mon sens. Ça va te libérer des espaces, des ballons, des tirs pour d'autres personnes. Donc ouais, ça va être sympa à suivre ce petit duel à l'ouest entre le Thunder et Denver. On va passer aux équipes outsiders. Moi, j'avais dit, du coup, j'ai mis les Rockets dans ces équipes. Et peut-être que je vais te surprendre, c'est peut-être pas une équipe outsider, mais c'est une équipe que j'ai envie de voir, c'est Portland. Portland, avec le retour de Damien Lillard, qui fait évidemment le plus grand bonheur de tous les fans de Portland, j'imagine. Voilà, ça s'est pas mal renforcé. Je roule l'idée aussi qui est là. Donc c'était quelque chose d'assez inattendu quand même il y a 2 ans. Tu montrais ça à un fan des Bucks. Il y a 2 ans, il pétait son crâne, mais c'est le cas maintenant. Et je pense qu'il peut pas aller chercher quelque chose. Dommage qu'il soit à l'ouest. À l'est, il y avait clairement la place d'un play-in ou des play-offs directs même. Là, je pense qu'il y a de quoi aller chercher un play-in. Il y a de quoi aller chercher un premier tour, peut-être, de play-off. Voir une 6e place s'ils sont en forme.
Bah, ce serait beau, c'est sûr. Et puis après, au niveau des joueurs, il y a un bel effectif. Après, à voir quand est-ce que Lillard il va pouvoir revenir aussi, parce que lui aussi c'est tendon d'Achille. Décidément, cette blessure, c'est horrible. Mais
c'est fait un peu plus tôt, lui.
C'est ça. C'était un peu plus tôt dans les play-offs, donc. Possiblement, comme tu le dis, Jrue Holiday, c'est l'expérience. Et derrière, il y a des bons petits jeunes. Il y a Deniav Dija aussi, pareil, qui est un joueur qui commence à faire sa place en NBA. Exactement. Toumani Camara aussi, qui est un très bon défenseur, lui aussi, peut-être dans une autre conversation. C'est un bon choix. Mais moi, c'est plutôt dans ce. Je pense que ça peut être l'équipe à surveiller en saison régulière. Pourquoi pas, en gros, l'exploit serait d'aller en play-off pour eux, mais un premier tour serait... Peut-être impossible, on va dire. Moi, tu vois, une équipe à surveiller que je mets, c'est les Hawks d'Atlanta. Ouais. Parce que là, du côté de l'Est, en fait, c'est tellement plus ouvert que c'est typiquement une équipe qui peut très bien aller en finale de conférence, sortie de nulle part, parce que ils se sont renforcés, parce que ils ont recruté Kristaps Porzingis, qui est quand même un joueur qui va t'apporter du spacing, qui est capable de tirer à 3 points, qui est capable d'être bon dans la raquette aussi. Trae Young qui va pouvoir l'abreuver de ballon. Il y a Jalen Johnson qui avait fait un très bon début de saison, mais il avait été blessé, donc il a joué que 36 matchs la saison dernière. Nickel Alexander Walker, recruté aussi chez les Wolves, qui est quand même un excellent ajout, surtout défensivement. Et puis Dyson Daniels, qui est toujours là et qui est le MIP en titre. Et puis vraiment, qui a été dans la All Defensive NBA First Team. Donc ouais, les Hawks, moi, ça m'intéresse pas mal.
Vous avez carré les achats aussi, du coup.
Aussi, oui, tout à fait. C'est vrai que j'oublie notre français. Parce que, en vrai, pour moi, je veux dire, je mets quand même d'autres joueurs avant dans la capacité de pouvoir amener les Hawks vers la victoire. Ouais. Mais Zachary Risacher, du coup, entre guillemets, dans son profil, justement, capable de faire du catch and shoot, de tirer à 3 points. Il est capable à un moment d'être à 30 points parce que il a mis je ne sais combien de 3 points. Donc
c'est... On avait vu l'année dernière contre les Nets, quand il fait son record de points, tout simplement, c'est beaucoup de catch and shoot, de tir ouvert. C'est pas tant de l'isolation comme on peut voir avec certains joueurs.
Ouais, puis et c'est, je pense qu'il peut y avoir un bon collectif. Les Hawks, moi, c'est une équipe qui m'intéresse et c'est surtout quand, en fait, quand tu compares, quand tu regardes l'Est, eh ben, tu te dis que typiquement, une équipe comme ça qui se renforce, il y a vraiment la place, on va dire.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis allé du côté des Clippers aussi, une équipe que j'aime beaucoup chaque année, mais qui me déçoit un peu chaque année. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais pour eux de faire quelque chose. Ça va être évidemment compliqué d'aller chercher un titre parce que c'est aussi l'équipe la plus vieille de NBA avec beaucoup de Bryce Carr dans son équipe. Kawhi Leonard, James Harden, et Russell Westbrook, Nicolas Batum, ça fait beaucoup.
Russell Westbrook qui est non Kings, plus maintenant il est aux Kings mais par contre t'as aussi Brook Lopez qu'ils ont pris. Moi je suis d'accord avec toi, je les ai mis aussi les Clippers, mais tu l'as dit, c'est les Briscard en titre quoi, c'est la, et en fait il y a du talent, mais ramène-les 10 ans en arrière, ils vont chercher le titre. Ce qu'il y a, c'est que pépin physique possible pour des joueurs comme Kawhi et comme James Harden, mais on a vu, en tout cas moi j'ai adoré la série Denver contre les Clippers la saison dernière en playoff, c'était incroyable hein, ça va en Game 7, mais c'était vraiment dingue. Donc c'est clairement une équipe à surveiller, et j'ai envie de dire il y a le retour de Chris Paul aussi pour l'histoire, c'est magnifique.
Oui, c'est ça.
C'est magnifique d'avoir Chris Paul, mais oui, du coup c'est peut-être celui-là que tu veux dire, parce qu'il a quand même 40 piges le bonhomme. Mais bon, on va dire que le rêve pour les fans des Clippers, c'est d'aller chercher la bague pour la dernière saison de Chris Paul qui a quand même marqué l'histoire de la franchise. Ce serait beau. C'est sûr.
Ça va être compliqué. Et puis, ouais, c'est quand même inquiétant pour cette franchise d'avoir très peu de renouvellement. Si ça marche pas cette année, on va sûrement les voir dans les bas-fonds de la ligue dans ce qui va suivre. À moins de réussir à trader un vieux James Harden, un vieux Kawhi dans une équipe pour aller chercher des tours de draft.
Ouais, plus ça compliqué,
me paraît,
ça.
Voilà, ça me paraît un peu compliqué. On va voir ce que ça va donner. C'est pour ça qu'il m'intéresse cette année de voir s'ils vont vraiment tout mettre en œuvre pour aller chercher un titre. Ou si ça va un peu se casser la gueule. T'as une autre équipe dans les outsiders?
Pour finir, moi j'avais mis Dallas parce que Dallas m'intéresse et j'ai pas mal ce débat avec certaines personnes. Dallas, oui. Maintenant là, quand tu regardes l'effectif à l'heure actuelle, c'est une équipe intéressante. Mais par contre, moi jamais je dirais que le trade de Luka Doncic était un bon choix. Là, les gens disent ça pourquoi? Parce que ils ont eu la chance de tomber sur le pic numéro 1 et d'avoir Cooper Flagg. S'il n'y a pas Cooper Flagg, non. En fait, on parle pas comme ça des Mavs. Là, quand on voit la pré-saison de Cooper Flagg, le gars a l'air monstrueux tout simplement. Il va avoir une partie des clés du camion avec Anthony Davis pour le début de la saison. Ça, on le sait parce qu'il est annoncé comme meneur de l'équipe. Ce qui fait que ça va encore faire un 5 avec de la taille. Mais je pense que les Mavs défensivement ça peut être costaud, et donc Nico Harrison et sa philosophie de jeu défensif, peut-être que ça va payer. Moi ça m'intéresse de suivre Anthony Davis, Cooper Flagg, et après quand reviendra aussi Kyrie, là ça pourra vraiment être du très sérieux.
Ouais, ça va, une équipe des Mavs très compétitive même malgré la perte quand même de Luka Doncic, ça peut faire du sale. Moi du coup j'avais les Rockets encore en équipe outsider, mais t'en as très bien parlé tout à l'heure. Il t'en reste une ou on passe à la question?
Non, on peut passer à la catégorie d'après.
Et nos candidats MVP, j'en ai noté trois sans grande surprise, je pense Shai et Jokic, et je me suis mis un Doncic en troisième position, où j'ai pas fait vraiment de classement entre ces trois joueurs, mais j'attends toujours cette saison de Luka Doncic. Vraiment, il a eu un niveau MVP, mais collectivement ça collait pas. Ils allaient pas chercher assez loin, une place assez haute en saison régulière, et c'était souvent le défaut qu'on lui reprochait. Là je pense que aux Lakers ce sera lui le patron, ce sera plus LeBron James. LeBron James qui sera d'ailleurs potentiellement sur sa dernière saison,
peut-être
s'attendait à ce qu'il nous l'annonce. Mais non, il ne nous l'a pas annoncé lors de sa pub pour du whisky. Mais ouais, du coup, Luka Doncic, j'en attends beaucoup pour lui cette saison, justement parce que son trade avait fait tellement parler. Faut qu'il dise que non, c'était pas un bon trade. Il est à son prime, on l'a vu s'affiner vachement cet été, et même depuis qu'il était tradé, tout simplement. C'était ce qu'on lui reprochait aussi, d'avoir un physique un peu trop lourd pour son poste. Donc je suis très intéressé de voir ce qu'il va nous donner.
Bah, moi je suis d'accord avec toi, mais moi Luka Doncic pour le coup c'est mon numéro 1. Alors c'est mon numéro 1 parce que je sais pas, en fait le pour moi c'est, je sais pas, intrinsèquement j'ai l'impression que c'est un peu lui le meilleur basketteur de la planète. C'est Jokic dans son registre de pivot et de voilà, il mène son équipe, donc c'est différent parce qu'il a ce gabarit de pivot qui passe la balle, qui prend des rebonds, qui score. Mais Doncic, par rapport à, on va dire, sa taille, par rapport à Jokic qui est un peu diminué, le jeu qu'il propose, et j'ai l'impression que s'il veut aller au panier et marquer, il le fait. Mais comme tu le dis, le MVP, c'est ça, c'est que pour moi, les Lakers, ils seront pas forcément dans le top 4 ou dans le top 5 de l'Ouest. Ouais. Ça peut être plus bas. Et si, du coup, on juge sa saison et que, bah, tu sais que dans tous les cas, Shai et Jokic, ils seront quand même à aller, Shai sera à 30 points de moyenne et Jokic sera en 25-10-10. Donc voire même plus. Donc oui, mais je pense que, enfin, pour moi, Doncic, il refera une saison à 34-35 points de moyenne comme il a fait il y a deux ans. Ouais. Mais j'aimerais qu'il aille chercher son MVP parce que je pense que ce serait mérité. Mais si on prend en compte le bilan, il y a encore des chances que ça se joue entre Shai et Jokic.
Ouais, je suis plutôt d'accord. En tout cas, on est plutôt d'accord aussi sur Doncic là-dessus. On veut voir sa saison MVP. Moi, tous les ans, j'ai l'impression de le mettre, de dire Luka Doncic sera MVP cette saison. Et finalement, il manque ce truc et on espère que ce sera pour cette année. Maintenant, les joueurs qui nous intéressent, je vais commencer, on va suivre les Lakers. Moi, je vais dire LeBron James. Mine de rien, potentiellement sa dernière saison, on le voit toujours aussi en forme. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous préparer cette saison, s'il va prendre un peu le lead, si à quel point il va donner de son expérience à Luka Doncic qui en a besoin tout de même, c'est sûr et certain, et voir jusqu'où il peut amener ses Lakers en tant que deuxième homme de la franchise, ça m'intéresse vachement.
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça va être intéressant de suivre ces Lakers sur cette saison, même si là LeBron est out pour je crois qu'il reviendra qu'en mi-novembre pour l'instant.
Ouais, c'est possible, ouais.
Donc on va devoir faire sans LeBron, c'est pour ça que je pense que les Lakers vont avoir un démarrage un peu poussif malgré les 40 points de moyenne de Luka parce qu'il va devoir tout faire pour son équipe. Moi, en joueur à surveiller, j'en ai un qui m'a bien intéressé sur l'intersaison et c'est Zion Williamson, oui. Parce que là, j'ai l'impression de ce que j'ai lu que on est peut-être sur la bonne voie avec lui, quoi. Il s'est remis en forme, il a voilà une préparation physique vraiment sérieuse pour lui. Je sais pas, je sens qu'il peut se passer un truc autour de Zion et pour moi, Zion peut vraiment être un joueur exceptionnel s'il joue à 100%, s'il est sérieux sur le terrain. Enfin, c'est des fois quand tu le vois jouer, tu te dis mais le gars mais domine tellement, il est inarrêtable et je pense que ouais, ça c'est, je vais vraiment suivre la saison de Zion qui peut aussi pourquoi pas du coup être dans des discussions MIP en fonction des stats. Moi je pense qu'il peut vraiment y avoir un gap, et que là ça peut vraiment être le moment où il se dit bon allez, les pelles je les prends pour moi, je les porte sur mon dos et on y va quoi, on va essayer de faire un play-in ou quelque chose comme ça quoi.
Bah, ça va dépendre de sa santé hein, c'est toujours ça le problème. Je sais qu'on, quand il était drafté, ça annonçait vraiment le nouveau LeBron James. Beaucoup de gens le disent encore surcoté aujourd'hui, moi je suis vraiment pas d'accord hein. C'est le seul souci, c'était sa santé, mais dès qu'il est sur le terrain il est ultra dominant. La saison dernière c'était le joueur le plus doublé en NBA, on parlait défense. Donc c'est dire à quel point on sait qu'il est dominant, qu'on a besoin, qu'un mec tout seul peut pas tenir Zion Williamson. Quoi, je suis plutôt d'accord, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Moi j'étais allé du côté de Paolo Banchero, voilà, qui va. Je suis sûr que tu l'as mis aussi, parce que je sais qu'on en a déjà parlé quelques fois avant les émissions. Et ouais, bah il va nous faire du sale. Hein. L'année dernière, il avait tellement bien commencé et cette blessure qui avait un peu tout gâché pour lui et pour Orlando, suivie de celle de Mo Wagner, de Franz Wagner, ils avaient été plutôt détruits. Le Magic, là pareil, bah Paolo Banchero qui peut être indéfendable au poste, en attaque il est monstrueux, il sait scorer, il a un peu de mal encore avec le tir extérieur, le tir à trois points, mais ça va venir. C'est pas là qu'on le cherche principalement, ce sera surtout sur des finitions en force, en bas du panier, il est athlétique, il court vite, il saute haut. Franchement, il y a de quoi faire avec cette équipe de Orlando, donc là aussi il a les clés.
Ouais, c'est sûr, complètement d'accord avec toi, surtout que Banchero, pour le coup là, Orlando c'est pareil. À l'Est, il y a la place. Orlando, pour moi, ils seront sur le podium de l'Est. Ce sera les Cavs, les Knicks et Orlando. Je pense que s'il n'y a pas les blessures qu'ils ont eues la saison dernière, si Franz Wagner se blesse pas, si Banchero se blesse pas, faut quand même dire qu'ils ont rajouté Desmond Bain et que à Orlando, le gros problème de cette équipe, c'était le shoot. Ouais. Les mecs avaient, je crois, le pire pourcentage au tir extérieur de toute la ligue. C'était exécrable, mais ça restait une belle équipe. Donc tu rajoutes un shooter qui shoot à 40% à 3 points comme Desmond Bain, ça peut vraiment être sympa. Et Banchero, ben, c'est pareil, Banchero. Pour moi, c'est clairement le gars qui peut, à la fin de la saison, faire la petite surprise et être dans le 5, dans les meilleurs, dans la All-NBA First Team, qui peut aussi être un candidat au titre de MVP. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus.
Voilà, t'en as un autre, toi, de joueur à suivre?
Bon, rapidement, bah, j'avais Ayman Thompson, mais j'en ai parlé tout à l'heure parce que moi, les Rockets, je trouve qu'il peut vraiment changer de dimension et dans sa capacité que ce soit, en fait, c'est un energizer, quoi. Le gars, il va défendre, il va prendre des rebonds, il va passer la balle, il sait un peu tout faire. Et c'est pareil, juste à développer le shoot, mais il y a même pas besoin parce que tu auras d'autres gars qui pourront shooter dans l'équipe des Rockets, donc ça va juste être lui qui va faire le sale boulot. Il va aller t'embêter deux trois adversaires, mais mettre des petits coups parce qu'on sent qu'il a un peu aussi un caractère assez particulier sur le terrain, mais ouais, moi je vais suivre ça très très fort.
Bah, je suis plutôt d'accord, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. On va passer au français. Il me semble qu'il y en a 21 ou 20, je suis pas sûr, j'ai vu la stat de 21, mais il me semble que
19.
C'est 19.
Ouais, 19.
Je l'ai noté. C'était avant que Kylianis et Olivier Sarr soient coupés, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, OK. Ouais. Donc 19, il me semblait que Kylianis avait déjà été coupé à ce moment-là où j'ai vu la stat, pour ça je disais 20.
Bah, j'ai vu ce matin 19 moi.
Ouais, OK, donc, bah c'est possible. Alors, ça doit être ça ou là, il y a un autre français qui a été coupé qu'on n'a pas vu. Mais il me semble pas. 19 français, évidemment, celui qui sera le plus suivi, je pense que c'est Victor Wembanyama, on va en parler rapidement.
Forcément.
On aura toute la saison pour en parler hein, il revient en forme, il nous met des bumps à Miles Turner, à Luke Cornett, à tous les pivots qu'on il joue, ça c'est ce qu'on voyait pas avant. Il tire à 3 points, il mène la balle, il met des contres, il met des dunks. Bon, bah,
il fait tout, mais pourtant le gars fait 2m26, 28, 29, 30, 31, 32, je sais pas, peut-être. Ouais. Bon, ça s'arrêtera un jour, je sais pas, mais non, c'est dingue. Candidat Deep Boy sûr, vainqueur Deep Boy peut-être à 95%, je sais pas, ça se trouve, on se fera surprendre. Moi, là où je mets un peu plus de on va dire, où je ralentis, c'est le titre de MVP. Je pense pas qu'il puisse aller chercher ce titre de MVP. Pour moi,
on parlait de bilan collectif,
mais oui, exactement.
Là, les Spurs, bon.
Non, mais
lui, il a dit, je crois que c'était hier soir, en conférence de presse, une bonne saison des Spurs, ce serait la 6e place, hein, une accession au play-off direct.
Ouais, complètement.
Et une 6e place, ça suffit pas pour être MVP, à mon sens.
Bah, ou alors, je sais pas s'il est en 35, 10, 10, ouais, mais 10 contre, pas 10 passes, hein, 10 ouais, contre ouais. Peut-être, mais ouais, à voir, mais non, bah, moi, d'autres Français dont on peut parler assez rapidement. Moi, c'est ma petite Knicks family, quoi. C'est Gershon. Gershon qui va être sixième homme, je pense, et qui peut-être peut être le sixième homme de l'année. ça me ferait extrêmement plaisir. Mohamed Diawara, un ancien Choletais. Et en plus, faut quand même le dire, mais là, ça y est, on est sûr qu'il est dans l'équipe parce que ils lui ont fait signer son contrat rookie. Donc, il a un an garanti. Il sera dans l'effectif de New York. Mike Brown l'a aussi fait jouer pour le récompenser de ses efforts en training. Il a été titularisé sur le dernier match de pré-saison. Ça fait plaisir. Paco Mdadi a aussi montré de très belles choses. Donc, moi, j'adore. En fait, quand c'est ton équipe que tu supportes et qu'en plus, il y a des Français, c'est vraiment trop, trop bien.
Ouais, moi, j'ai pas eu cette chance. Je suis pour Toronto. C'était Olivier Sarr qui nous avait mis un magnifique buzzer, mais malheureusement, il était coupé. Mais moi, j'ai plutôt m'intéressé du côté des Wizards, Bilal Koulibaly et Alex Sarr, ce frère d'Olivier Sarr, donc on le retrouve. J'en attends beaucoup d'eux, surtout de Bilal Koulibaly qui m'avait fait tellement plaisir avant sa blessure. Même ces deux saisons, vraiment c'est un de mes Français que je préfère actuellement en NBA. Voilà, derrière évidemment Victor Wembanyama. Pareil, un peu dans le rôle de Lamin Thompson, de faire ce sale boulot, d'être un chien de garde en défense, de se la donner, et puis Alexandre Sarr à ses côtés, qui a encore pas mal à bosser dans la vision de jeu, dans se renforcer physiquement, dans trouver son rôle sur le terrain en NBA. C'est pas quelque chose qui est hyper simple pour lui, mais ça va le faire, et c'est les deux Français moi que j'ai envie de surveiller pas mal cette saison.
Ouais, complètement. On peut finir là juste pour citer quelques noms qui te parleront. Évidemment. Je pense à Maxime Reynaud qui peut être très bon avec les Kings, avoir du temps de jeu. Noah Penda qui va m'intéresser dans le même rôle que Bilal Koulibaly, d'essayer d'aller être le connecteur, de choper les ballons, d'être très présent. Et puis il y a des Noah Isenge avec les Bulls, Nolan Traoré avec les Nets et j'en passe. Mais en tout cas, on a hâte de suivre ces Français. Et puis je pense qu'on peut clôturer cette petite, enfin, grande partie du coup NBA.
Ouais, on a pris pas mal de temps.
On s'est pas mal lâché.
On s'excuse les gars, pardon.
Mais il n'y a aucun souci, hein. C'était prévu comme ça.
Voilà, parce que du coup, la NBA reprend ce soir à 1h30 avec un magnifique Thunder Rockets.
Magnifique! Voilà, c'est beau, ça.
Ça bosse. Et après, Lakers Warriors. Ouais, un peu moins bien celui-là, mais on s'en passera. Et ben, on va enchaîner tout de suite. Changement de programme. On passe au tennis de table, Paul.
Et oui, messieurs, car nos Français règnent sur le tennis de table européen avec une insolence qui force le respect. En quelques mois à peine, ils ont tout raflé. Top 16 européens, titre de champion d'Europe en simple, en double et désormais par équipe. Une domination totale qui confirme l'incroyable essor de ces générations dorées. Ce dimanche 19 octobre, à l'occasion de la finale des championnats d'Europe, l'équipe de France emmenée par Simon Gauzy et les frères Lebrun retrouvait la Roumanie après avoir écarté la Belgique en quart et l'Allemagne en demi-finale. Alexis Lebrun a ouvert le bal de la meilleure des manières. Tranchant, précis, irrésistible, il a survolé son match face à Lulian Chirita, 11-2, 11-6, 11-7. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de son frère Félix d'entrer en scène. Plus accroché, son duel contre Eugène Ionescu a tourné à son avantage après 4 sets intenses. 11-3, 9-11, 11-5, 11-4.
Restait du coup Simon Gauzy, le doyen du groupe, à conclure cette finale. Fort de son expérience, il a maîtrisé son adversaire Ovidiu Ionescu, malgré un petit passage à vide. 11-9, 11-9, 3-11, 11-3. Avec cette victoire, la France sauve son premier titre européen par équipe depuis les légendaires mousquetaires de 1998. 27 ans plus tard, une nouvelle génération écrit sa propre légende. Tout cela est de très bon augure pour les JO de Los Angeles dans 2 ans et demi.
C'est parfait en tout cas ce qu'ils ont proposé. Puis c'est surtout que ça fait plaisir, encore une fois, une autre discipline sportive où on sait que grâce aux frères Lebrun, on a un bel avenir en tout cas qui se donne devant nous, parce que ça, c'est sûr. Enfin, on sait qu'ils vont aller chercher encore des médailles sur la scène olympique. Déjà là, on va dire que bon, le championnat d'Europe, quand on connaît leur talent et ce qu'ils proposent aussi rien que sur la saison en tennis de table, on les attend là. Après, c'est les championnats du monde où tout de suite ça commence à être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas. Oui, ça fait plaisir.
On a eu quand même de la chance aussi par rapport à la Suède,
ouais,
qui était la série numéro 1, qui était quand même la grosse équipe européenne aussi avec l'Allemagne, même si l'Allemagne, ça commence un petit peu à décliner, mais c'est vrai que la Suède qui s'est fait sortir par cette Roumanie, énorme surprise aussi. Ouais. Donc forcément, on a eu de la chance par rapport à ça, mais c'est vrai que cette génération, elle nous permet de rêver dans un sport où on rêvait presque plus en fait.
Oui, complètement.
C'est clair, ouais. Et voilà. On va passer à un autre tennis, le tennis normal.
La grande raquette.
Voilà. Exactement, la grande raquette et la balle jaune. Bon, rapidement pour te laisser après le temps de parler, Mathéo. On a pu suivre des Français sur cette semaine et c'était des très belles performances proposées par nos Français. Un petit peu dans la lignée de ce que nous a proposé Arthur Hinderknecht. On a d'abord eu Giovanni Mpetti-Péricard qui est allé jusqu'en demi-finale à Bruxelles sur un ATP 250 en réussissant à battre sa bête noire Lorenzo Musetti qui est 8e mondial sur les 4 premières confrontations entre les deux joueurs. Jamais Mpetti n'avait gagné et il a réussi à le faire sur ce tournoi. Derrière, face à Lieschka, il a malheureusement perdu en demi 7-6, mais c'est de bon augure. Malheureusement, quand j'avais écrit mon texte, il n'avait pas encore perdu au tournoi de Bâle et c'est dommage qu'il perde face à Fonseca au premier tour parce que il devait défendre son titre. Il avait fait l'exploit de le gagner la saison dernière, donc il va perdre un peu de points au classement ATP. Dommage. Derrière, la magnifique aussi performance, c'est celle de Corentin Moutet sur le tournoi d'Almaty, donc au Kazakh, dédicace à l'équipe de Ligue des Champions qui évolue, donc ça devient une ville un peu qui met la lumière sur elle sportivement. Et ben Corentin Moutet est allé jusqu'en finale mais a échoué dans une grosse bataille de 2h38 face à Medvedev. D'ailleurs Medvedev qui commence à retrouver un petit peu son tennis, mais Moutet a été quand même assez bluffant et remarquable dans son jeu. Et le dernier Français qui est allé en finale, c'était Hugo Humbert en Suède, qui a profité d'une blessure terrible d'Holger Rune, rupture du tendon d'Achille là aussi, donc il sera sûrement out pour plus d'un an. Et Humbert a perdu en finale, il s'est fait littéralement balayer par Casper Ruud, mais ça emmène vers la Coupe Davis parce que le 18 novembre les Français vont affronter en quart de finale les Belges et Paul-Henri Mathieu a fait une présélection, il a forcément sélectionné Rinderknecht, Hugo Humbert, Bonzi et Pierre-Hugues Herbert. À noter qu'il peut aller en chercher un cinquième et c'est là que le duel entre Mpetti et Moutet, en fonction de ce qu'ils vont faire sur la fin de saison, va pouvoir se jouer parce que ce sera forcément un des deux qui l'ira chercher, mais lequel, à voir en fonction de leur dernière prestation sur la saison.
Voilà, évidemment, on suivra ça. On va finir rapidement avec du cyclisme et pas des bonnes nouvelles, Mathéo.
Non, le couperet est tombé. Cofidis quitte le World Tour après 5 années dans l'élite, un 20e du classement UCI sur le cycle 2023-2025. La formation nordiste est reléguée au rang de pro team. Une désillusion, mais pas forcément un drame. Hein. Grâce au règlement de l'UCI, les 3 meilleures équipes de Pro Series seront invitées automatiquement sur les grandes courses World Tour l'année suivante. Donc avec sa 20e place, Cofidis assure déjà une présence sur les monuments et sur les grands tours. Donc on pourra les voir sur le Tour de France, Paris-Roubaix ou Paris-Nice. Sous la houlette de Raphaël Jeune, la formation nordiste va donc poursuivre sa route, mais sans le confort d'un statut World Tour, elle devra batailler chaque année pour rester dans ce top 3 Pro Series et continuer à exister sur les grands sur les grandes compétitions. Le revers est surtout symbolique, hein. Cofidis perd son rang dans l'élite, l'équipe garde quand même un collectif plutôt solide emmené par Brian Cocard et plusieurs jeunes prometteurs. Au final, rien d'étonnant aussi pour le grand public, hein. Il n'y avait qu'à voir la présence très discrète au dernier Tour de France pour se rendre compte que l'équipe n'avait pas les cartes pour rester sur le pour rester au premier plan. C'est l'équipe UnoX Mobility qui va reprendre donc cette place et garder donc cette place, pardon, profitant notamment de la fusion de Lotto et d'Intermarché Wanty qui libère une licence. Cofidis descend mais ne s'effondre pas, hein, contrairement à une autre équipe française, Arkea BNB Hotel, pour qui la relégation n'est plus qu'un épilogue amer. L'équipe bretonne née en 2005 vit sa dernière saison. Son manager Emmanuel Hubert l'a confirmé. Faute de repreneur après le désengagement de ses sponsors, la structure met la clé sous la porte. C'est un crève-cœur, hein, confiait-il sur RMC. C'est une disparition qui intervient paradoxalement après la plus belle saison sportive de l'équipe, avec notamment donc Kevin Vauclin qui a fini 7e du dernier Tour de France. Lui a depuis rejoint Ineos. Le départ de Vauclin et puis donc les difficultés financières, l'absence de sponsors ont fait mettre la clé sous la porte à Arkea BNB Hotel. Et donc avec cette disparition et cette aussi disparition du World Tour de Cofidis, la France passe de 4 à 2 équipes dans l'élite, hein, Groupama FDJ et Decathlon HG2R la mondiale. Reste à savoir donc si cette secousse ne restera qu'un léger signal d'alarme, la création d'un renouveau peut-être. En tout cas, c'est tout ce que nous on souhaite.
Voilà, merci pour ces informations, messieurs. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Ligue des Champions, évidemment. À la semaine prochaine. On vous laisse avec un autre regard juste après nous. Et bien, bonne soirée.